Je ne regarde pas ou presque plus la télé-réalité, mais ça veut pas dire que c'est inintéressant. Moi, je juge pas ça. Il y en a qui vont changer de poste. Là. Je sais, là, ils détestent ça, regarde. Je suis de l'école du Doc Mayou, autrefois expert à Love Story, qui disait toujours, mais c'est le meilleur laboratoire humain qu'il n'y a pas.
Oh. C'est anthropologique, ouais.
Mais oui!
Et j'aimerais avoir les commentaires du Doc Mayou encore à ce jour sur certaines téléréalités. C'est plate qui se passe.
Oui. C'est vrai que ça serait le fun, sincèrement. Ouais.
Ben, pourquoi on ne demande pas?
C'est vrai.
Analyser la téléréalité.
On va y demander. Regardons, on le connaît bien. Parce que c'est passé de quoi? Évidemment que je ne l'ai pas vu, mais Elisabeth va nous en parler. Et dès qu'elle me dit ça, j'ai dit oui, on va en parler. C'est un bel exemple de laboratoire. Selon moi, ce qui est arrivé dans OD est symptomatique de la société québécoise d'aujourd'hui. Alors, on va, je pense, vous le faire d'abord entendre. Mets-nous le contexte pour les gens comme moi qui ne regardent pas ça.
Bon, en fait, là, vous savez qu'à Occupation double, vous êtes un peu confiné, vous êtes coupé de tout le monde extérieur. Vous n'avez pas le droit, évidemment, d'aller sur Internet, vous n'avez pas le droit de parler au téléphone, vous ne parlez pas à vos proches. Vous avez, en tout cas, à l'époque où j'avais une amie qui était dans Occupation double, tu n'avais même pas le droit d'écouter un film, sauf une soirée par semaine. Et lorsque tu avais des conversations avec les filles ou les gars dans la maison, quand la conversation ne tournait pas autour du jeu pendant trop longtemps, tu avais des producteurs qui parlaient dans l'oreille, là, recommençaient à parler du jeu. Là. Fait que tu deviens un peu fou. Tu deviens un peu fou parce que tout doit tourner autour du jeu, de la game, des stratégies pour gagner Occupation double et t'es coupé complètement du monde extérieur. Ça crée une anxiété chez certaines personnes et ça peut se manifester en crise de panique totale et c'est à ça qu'on a eu droit cette semaine de la part de la nouvelle candidate qui est rentrée. Mais à un point tel que ça crée un malaise, là, Sylvain, les réseaux sociaux ne parlaient que de ça et là, c'était comme, hey, OD, là, vous allez un petit peu trop loin. Là, cette fille-là est en crise de panique, c'est évident et j'espère, je fais confiance que la production d'Occupation double s'est bien occupée d'elle. Mais écoutez ça, le montage dure à peu près 2 minutes. Il y a un malaise.
Est-ce que, je veux juste savoir, là, parce que je comprends tout le contexte, tu l'as bien décrit, d'OD, qui est peut-être responsable de ça. Mais au nombre de personnes qui ont passé dans OD, il y en a qui ont quand même bien réagi, ça dépend. Là. Est-ce qu'on va voir dans le montage pourquoi elle fait une crise de panique?
Ben, en gros, ça tournait autour du fait qu'il faisait un jeu de questions. C'était vérité aux conséquences. Et puis là, il y a eu une espèce de conflit avec quelqu'un d'autre, avec un gars là-bas. Fait que c'est ça qui a créé sa crise de panique à elle. Mais on se rend compte que ça peut pas être juste cet événement-là. Là. Clairement, elle était pas bien de façon globale dans la maison.
Mais il y a eu des paroles qui l'ont blessée.
Oui, puis c'est pas juste celle qu'on va entendre, je pense, dans le montage, non, parce c'est assez généralisé. L'anxiété puis la panique, elle, c'est la plus intense, mais on va écouter ça.
C'est ça, parce que c'est comme être un hamster dans une cage, puis... Tu sais, puis genre, je regarde le monde, c'est mais tu sais, hier, vous êtes ici sur le sofa, tout le monde frenchait son chum, puis j'étais comme, hey, ils sont fucking chanceuses, pour vrai. Je sens que j'ai pas de place.
Bon, je fais quoi cette semaine, faut parler de moi, là? Puis là, j'ai l'impression qu'il se passe juste rien, puis je trouve ça tough, c'est dans la tête beaucoup, là.
Marie!
Donc, vous avez pas entendu quand il a dit super sneaky, j'aurais dû choisir Amira.
C'est
correct, je veux faire un show, c'est correct, mais
si c'est pas une chose, une blague.
Ils sont pas drôles.
T'aurais pu être une blague pareille chez nous avec mes chambres.
C'est tellement wack.
T'es carré, man.
Venez.
Je te dis, là, pour vrai, je suis en tabarnak, man. Je suis plus capable. Pour vrai, je veux juste mes affaires.
C'est pas grave. Je suis carré. Je me trouve tellement dégueulasse de pleurer parce qu'il y a eu plein de filles qui vendraient leur mère pour être là.
Moi, je me suis dit aujourd'hui, si je réglais pas mes affaires avec Renaud puis qu'il me confrontait pas ou whatever, je partais.
OK, je t'en ai, je vais aller à la maison. J'essaie d'être positive pis tout, mais je me pogne avec moi, tu comprends? C'est pas ma personne, je t'en préférerais pas, là. Je suis contente qu'elle ait l'activité, mais c'est ça, ça fait que je reste encore une semaine dans la maison. Je suis plus
Je comprends.
Je l'ai juste pour aller, je suis capable. Je vais pas dire que moi, ça va pas, parce que si j'ai dit, lui, ça va pas.
Faut que je me parle pour pas pleurer. C'est débile mental. Tu sais pas que tu vas te sentir de même tant que tu viens pour, hein? Hey! Being ill! Je suis pas heureuse. Je suis pas dans le même, comme, vibe, pantoute, puis j'essaye. Je suis pas capable.
J'ai peur d'avoir des activités. Genre, j'ai peur des activités. J'ai juste pleuré depuis hier. Ma face, elle dépasse pas, ben je fais juste continuer à pleurer.
Ouais. En passant, je savais pas que Steve Barakat était dans Occupation Double. Parce
oui,
qu'on
la
entend,
musique en
on entend le piano.
Je m'interrogeais si on réécoutait ce montage-là sans la musique, ce que ça donnerait.
Ouais,
ça
alors,
il
comédie.
Il pleure
je
pareil,
savais pas,
par
je savais pas que Steve était dans Occupation Double, mais on l'entend jouer à plusieurs reprises.
Oui, oui. Musique. C'est...
Non, mais vous comprenez qu'il y a un show là-dedans. Là. Ouais. L'enrobage, le piano, etc. Il manque juste Daniel Etu, là. Honnêtement, on pourrait terminer ce segment-là avec Daniel Etu. J'ai noté plusieurs choses. Et je vais vous parler, on va aller, vous vous attendez peut-être pas à ça, mais on va vraiment s'en aller ailleurs. Il y a de quoi dont je veux vous parler depuis 3-4 jours, puis je trouve pas le moyen. J'ai dit, ça va tellement être un peu spécial, d'après moi, ça va sortir de nulle part, mais, et là, je vais le faire à matin. Grande enquête que j'ai menée sur la généalogie, j'adore ça. C'est quoi le rapport? T'as-tu fumé? Non, non. J'ai noté, je trouve que les gens sont fragiles. Oui, à la pression de la télé-réalité, le contexte qu'Élie a parlé, mais écoutez bien, là, j'ai noté, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire parler? Hey, as-tu regardé les autres? As-tu regardé les autres? Hey, as-tu vu quand il a dit, quand... Maudit qu'on est devenu fragile à l'opinion des autres, puis qu'on veut paraître, puis je vous en parle souvent, c'est les médias sociaux, la compétition. Faut faire parler. As-tu checké ce que lui a dit ou elle a dit? As-tu regardé le bonheur des autres, les autres se freinent? As-tu regardé? On se met une pression incroyable. Là, je suis sérieusement inquiet, moi. Je ris pas de ça, c'est effectivement des crises de panique. C'est,
non,
je,
oui, vraiment,
je ne diminue pas. Il n'y a personne qui a appris là-dedans qu'il y avait le cancer. Il n'y a personne qui a appris la mort d'un proche. Il n'y a personne. C'est une histoire de paraître... de « je regarde les autres, puis je veux être hot, puis je veux pogner, et ils sont en panique. » Où on s'en va? Je sais pas. Alors, on s'en va à Sainte-Luce. 7h14. Écoutez bien l'histoire. J'ai des amis qui sont allés visiter le cimetière de Sainte-Luce. On est un peu pas loin de Rimouski, un des plus beaux villages au Québec. Bon, qu'on me dit, mais mea culpa, jamais été. Il y a là un épitaphe intriguant. La personne a pris une photo et m'a envoyé ça. Tu gardes ça. Enquête là-dessus, Sylvain. J'ai vu ça cet été. T'as un super épitaphe. Donc, visiblement, une famille qui a réussi, qui avait de l'argent, parce que le monument est impressionnant. Et c'est au nom d'Elzéar Côté et de Jane Côté. Alors là, c'est à la mémoire de... Et il y a 6 noms. Je les ai quasiment retenus. Ben, j'ai fouillé dans plein d'arbres généalogiques. Alors, il y a Elzéar, il y a Zébulon... Ensuite, il y a Charles-Auguste. Ensuite, il y a Bridget. Je les ai quasiment appris par cœur. Il y a 6 noms. C'est 6 bébés qui sont tous décédés avant 1 an. Ils en ont perdu 6. L'histoire finit pas là. Je pourrais juste vous conter ça, mais il y a autre chose. Ça, c'est l'épitaphe. Cette madame-là, Jane, elle a perdu, elle a mis au monde 6 enfants qui sont tous décédés. À peu près, le plus vieux avait, je pense, 1 an et demi. Il n'y a pas un qui a franchi 1 an et demi. Avez-vous une idée du drame? Je dois parler à des gens là, qui ont perdu des enfants ou qui ont fait des fausses couches. Je garde... Non, je peux pas imaginer cette douleur-là de perdre un enfant. Je pense que personne, à moins de l'avoir vécu, ils en ont perdu 6. Alors moi, je vois l'épitaphe, ça me fascine. Je m'en vais sur Google, plein de sites d'arbres généalogiques. Et là, je découvre quoi? Effectivement, ils en ont perdu 6. Mais ils en ont eu 6 autres à qui ont tous donné le nom, le prénom des bébés morts. En voyant l'arbre, il y a un Zébulon qui est mort, mais il y a un Zébulon qui a vécu. Il y a un Charles, des Augustes, ça en a pris 3. Il y a 2 Augustes qui sont décédés. Mais à un moment donné, il y a un Auguste qui a vécu, je pense, jusqu'à 80 ans. Ils ont persévéré. En tout, ils ont eu 7 enfants. Ben, ils en ont eu 13, dont 6 sont décédés en bas âge. Mais elle en a eu, la maman de Jane, 7 autres qui ont vécu. Ça se passait dans les années 1800 à Sainte-Luce. Aujourd'hui, on tombe en crise de panique parce qu'une fille regarde du monde frenchée puis elle la french pas. Elle french pas. Puis elle est pas hot. Puis elle fait pas parler.
Elle est rejetée.
Puis quelqu'un lui a dit quoi pas fin. À partir de quel âge Jane a commencé à avoir des enfants? L'âge des enfants des filles d'OD. Son premier qu'elle a perdu, là, dans ces âges-là. Ouais. Elle a un que j'ai dit?
T'as dit l'âge des enfants des filles d'OD, mais non, l'âge des filles d'OD.
L'âge des filles d'OD. Elle avait, excuse-moi. Mm-hmm. C'est fascinant, là. ils ont réussi. J'imagine que c'était une façon de... Je sais pas, je peux pas savoir, là. Je sais pas s'il y a des descendants quelque part de ce couple-là qui existe encore. J'ai essayé de fouiller un peu. J'ai rien trouvé. Le monsieur était un capitaine de milice. Donc, un monsieur qui était dans l'armée. Ben, milice.
Ouais,
armée.
C'est comme une armée parallèle. Ouais.
Mais c'était un marchand. Donc, certainement réussi sa vie comme marchand parce qu'il y avait le plus bel épitaphe ou à peu près du cimetière. Un marchand, un capitaine de milice. 6 fois, il a vu ses enfants mourir. 7 fois, il en a mis au monde avec les mêmes prénoms et ils ont survécu. Ça s'appelle de la persévérance. Ça s'appelle capable d'affronter, de surmonter. Savez-vous, c'est quoi notre problème? On est trop gâtés. Je me mets là-dedans, je dis on depuis tantôt. Là, je suis pas en train de... Je passe un piédestal. Je vous raconte une histoire. Nous sommes trop gâtés. Pas connu la guerre. Avez-vous des amis qui ont fait la guerre, vous autres?
Pas bien,
ben. Une génération avant, ils connaissaient au moins un oncle, un père de quoi?
Si c'était pas eux.
Là. Ah, zéro plus. Voilà. Mon grand-père est allé Première Guerre mondiale. Mais à partir de là, je connais personne. Pas fait la guerre. Les soins de santé se sont améliorés. Tout le monde travaille. Chômage comme la crise de 1929 ou même le début des années 80 avec des taux d'intérêt à 20 %. Mes parents ont connu ça, taux d'intérêt à 20 %. Mm-hmm. Et personne. On est... Là, la bourse tombe de 2 % et c'est une crise. On est en crise actuellement. La bourse a tombé de 2-3 %. Mais non, on est trop gâtés et c'est pas bon pour notre santé mentale. Je trouve que là, on a besoin de relativer, on a
Viser.
Viser, c'est comme ça qu'on doit le dire. Ouais. Alors, je voulais vous conter cette histoire-là. Ça fait une semaine que je veux la conter. Je sors ça comment? Là, je veux pas que ça soit prétentieux. Il n'y a pas de jugement. Je vous raconte qu'autrefois, il y avait des problèmes et on était capable de trouver des solutions avec moins de moyens en persévérant. La fille d'Odé, là. En plus, les filles qui sont là, c'est des super belles filles. Hein? Mm-hmm. Je leur regarde pas cette année, mais ils sont en santé. Belle, tu sais.
Mais non, crise objectivement, panique, c'est ça, là. Objectivement, elles n'ont rien. Comment je te dis? Elles n'ont pas à se plaindre parce qu'effectivement, elles ont la santé, elles sont là. Bon, elles parlent de leur famille. Ils vivent quand même quelque chose d'extraordinaire. Elles sont en Grèce, dans une maison de luxe. Ils font des voyages. Mais Sylvain, l'anxiété, elle est généralisée aujourd'hui en 2018 et c'est pas nécessairement générationnel. T'as des adultes qui avaient jamais fait d'anxiété de leur vie qui aujourd'hui en font pour je ne sais trop quelle raison. Je vois pas, par exemple, sous-estimer l'impact du confinement occupation double oui, parce qu'ils vivent dans une réalité qui est pas la nôtre en ce moment.
Et c'est fait pour, hein, justement, pour...
Non, mais s'il y avait, Élie, s'il y avait uniquement une augmentation de l'anxiété occupation double, on mettrait ça sur la faute du confinement, mais tu le dis toi-même, mm-hmm. Elle est partout généralisé. Dans la société et je maintiens mon point qu'on est trop gâté et qu'on cherche le bonheur à la mauvaise place. On n'est pas juste trop gâté. On cherche le bonheur dans le flash, dans le paraître, dans l'apparence. C'est pas là.
Mais je vais te donner un exemple de où je pense qu'occupation double va peut-être un petit peu trop loin pour jouer avec le psychologique de ces candidats. Il y a un couple qui est très... le couple le plus sérieux et officiel à Occupation Double, c'est Olivier et Paisy. Ils sont en couple depuis la semaine 1 ou 2. Ils sont plates comme la pluie. Sur les réseaux sociaux, ils se font bâcher depuis 7 semaines parce qu'ils sont plates à regarder. Ils font juste se dire qu'ils s'aiment et qu'ils se trouvent beaux. Puis vraiment, là, c'est un long fleuve tranquille, leur histoire. Paisy, c'est l'ex-copine d'un candidat qui avait fait Occupation Double l'année passée. C'est un gars de Québec, d'ailleurs. Il s'appelle Cendric. Et ils ont une relation très, très fusionnelle. Ils sont très, très amis. Et parce que le couple Olivier et Paisy était tellement plate, la production a décidé de faire revenir Cendric ce dimanche à Occupation Double. Et les seuls extraits qu'on a vus, c'est Olivier, le chum de Paisy, qui est en crise et qui se demande qu'est-ce qui se passe. Paisy qui embrasse son nouveau chum. Et là, présentement, là, ce qu'on voit comme réaction sur les réseaux sociaux, c'est Occupation Double, qu'est-ce que vous faites là? Aviez-vous vraiment besoin d'aller jouer avec les nerfs d'un gars comme ça en ramenant l'ex qui n'a pas rapport?
Non, tu ne me convaincs pas. Zéro pin bar. Ils ont juste à s'en aller. Ils ne sont pas contents. Hey, fais-moi pas croire que c'est une tragédie. Oh mon Dieu!
Non, je te dis
des ex qui reviennent dans le portrait. Mais voyons,
je te dis
arrêtez-moi
pas que c'est une
ça.
Tragédie, Sylvain.
Repense à Elzéar et Jane. Repense à ça.
Tu compares deux affaires différentes. Je te dis pas, Sylvain, peut-être qu'ils peuvent s'en aller s'ils sont pas heureux. Je suis d'accord avec toi. Mais dans la vraie vie, là, si ton ex revient, t'as le pouvoir de dire je veux pas te voir ou pas. À Occupation Double, t'as pas le pouvoir parce que tu t'enfermes pendant 2 jours.
Non. T'as le pouvoir à partir de n'importe quand de dire je sacre mon camp d'ici.
T'as raison, c'est
arrêtez-moi
sûr.
Ça,
on est libre de tout.
C'est pas OD.
Non, mais attends un peu.
C'est pas sur OD.
C'est
ça n'a rien à voir. C'est la société. C'est des rats de laboratoire.
C'est
des rats de laboratoire.
Tu te sens comme un hamster dans une cage. Ils sont des rats de laboratoire.
Et volontaires et consentants, ils ne sont pas contents qu'ils sacrent le camp.
Tu as tout à fait raison, mais ne sous-estime pas l'impact que la production peut avoir sur ces gens-là. Oh oui. Parce qu'ils sont en train de jouer un jeu avec eux autres.
Ce qui me rassure, c'est que c'est pas tout le monde qui ira au dé.
Là, quand ils disent un hamster dans une cage, là, je m'excuse, la porte n'est pas barrée.
Hey.
La porte n'est pas barrée, allez vous entendre tant
que
vous voulez.
C'est sûr que
mais je trouve ça, exactement comme le Doc Mayou, c'est un excellent laboratoire de la société humaine. 25226. Fan d'OD ou pas, regarde, je le regarde même pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on est rendu trop gâté? Comment vous expliquer? Dans le fond, la question qu'on pose, ça va au-delà de l'émission. Puis c'était très pertinent de ta part de l'amener. C'est qu'est-ce qui crée autant d'anxiété, de malheur et de panique dans la société? On bat des records de pilules, on bat presque des records de suicides, on bat des records de consommation de drogue. Je vous le répète souvent, c'est ici qu'ils se consomment le plus de drogue.
Moi, je pense qu'en 2018, là, la difficulté, c'est que l'ascension vers le bonheur est infinie. Il n'arrête jamais. On ne l'atteint jamais.